With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha. We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Touchdown Actu, rendez-vous consacré à la draft avec la suite et la fin du débrief de la draft 2022, un débrief consacré notamment à la conférence nationale qui ont marqué le plus de points par le biais de cette draft. Comment juge-t-on l'arrivée de nouveaux receveurs vétérans au cours de ce week-end chez certaines grosses écuries de la NFC? Comment faut-il juger cette draft des Packers qui ne laisse jamais indifférent, même au sein de la franchise au fromage? Pour parler de ces différents sujets au sein de cette 498e émission de TDA, on approche des 500. Alexandre Locke est avec moi. Salut Alex.
Salut Greg, bonjour à tous.
C'était une obligation de t'avoir avec nous pour parler de Green Bay, surtout qu'on n'avait pas eu la chance et le plaisir de t'avoir, puisque tu ferraillais à l'écrit au cours de la nuit. On n'avait pas l'occasion de pouvoir avoir ton ressenti à chaud sur cette draft des Packers, donc on sera très curieux d'avoir ton ressenti. Et puis j'en profite également pour remercier Monsieur Alain Mattei, qui s'occupe de la technique aujourd'hui, pour cette émission. Salut Alain. On enchaîne donc avec, je le disais, un programme assez copieux, notamment donc certains arrivées notables de receveurs. C'était le cas notamment du côté de Philadelphie. On va commencer en évoquant la NFC Est.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Ils étaient pressentis comme des acteurs majeurs de cette draft 2022, Alex. Et ben, on n'a pas forcément été déçus par la draft des Philadelphia Eagles. Alors, je vais donner les choix majeurs. On va pas détailler à chaque fois, même si là, en l'occurrence, les Eagles, qui avaient quasiment 12 ou 13 choix, je crois, de mémoire, avant le début de cette draft, finalement, n'ont sélectionné que 5 joueurs. Ils ont été assez actifs, notamment par le biais de leur premier tour. L'un de leurs premiers tours a servi, donc, je le disais, à échanger ce 18e choix donc aux Tennessee Titans pour faire venir AJ Brown, le receveur, du côté de la Pennsylvanie. Et puis avec l'autre premier tour de draft, donc le 15e, on en a profité pour court-circuiter les Ravens, a priori, pour récupérer Jordan Davis, nose tackle. Après, on a notamment Cam Jurgens, le centre de Nebraska, qui a été drafté un petit peu plus tard, et surtout Nakobe Dean, linebacker de Georgia. Alors, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, Alex. Est-ce qu'on peut dire sur cette draft-là des Eagles qu'on a plutôt privilégié la qualité à la quantité, en l'occurrence?
Bah, clairement, c'est l'option qu'ils ont choisie. Ce qui est vraiment intéressant, et on va certainement le développer quand on va revenir sur d'autres choix, d'autres équipes, c'est le pari de partir sur un receveur vétéran, en l'occurrence Edgy Brown, contre ce 18e choix, plutôt que de mettre le 18e choix sur Treylon Burks, qui lui a été sélectionné à ce spot-là. En plus, je trouve qu'ils lui ont proposé derrière un contrat qui reste raisonnable, puisque c'est environ 20 millions par an, hein, puisque c'est un peu plus de 100 millions sur 5 ans.
Alors, apparemment, sur le marché des receveurs, en ce moment, 20 millions par an, c'est raisonnable.
C'est pas beaucoup. c'est-à-dire qu'au moins avec Edgy Brown, tu sais ce que t'as. Tu sais que la qualité du joueur, il a porté l'attaque de Tennessee ces dernières saisons. Il semble carrément complémentaire avec Devonta Smith, voire Jalen Reagor, même si bon, sur lui j'ai des doutes. Donc avec ça, tu sais ce que t'as des armes pour Jalen Hurts. Après tu prends Jordan Davis. Alors tu disais qu'ils ont court-circuité les Ravens. Je sais pas trop si les Ravens sont malheureux de se retrouver après avec Kyle Hamilton, mais là t'as l'héritier de Fletcher Cox, donc c'est un premier tour qui est bien pensé. Et effectivement, comme tu disais, plutôt que de multiplier les choix, tu t'assures quand même avec donc un gros défenseur de course et une vraie cible. J'allais dire une bonne saison, ça dépend, mais en tout cas, tu es vraiment renforcé. Tu sors du premier tour renforcé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.
Ouais, tout à fait. Si on veut vraiment donner un petit bémol sur cette draft des Eagles, c'est peut-être éventuellement le fait qu'on ne se soit pas activé sur les defensive backs. C'est peut-être éventuellement ce qui peut amener à laisser un arrière-goût un peu amer chez les fans de Philadelphie.
C'est sûr que quand tu regardes la liste, il n'y en a pas du tout. Et on en avait parlé quand on avait fait la pastille ensemble, et on en a parlé au cours des différentes mocks, etc. On voyait tous arriver un corner pour être à l'opposé de Slay. Bon, ils font un choix différent, ils ont confiance dans l'équipe qu'ils ont. Peut-être que c'est simplement aussi une façon de construire différente, parce que l'année prochaine, ils auront de nouveau deux premiers tours. Donc, ils pourront très bien à ce moment-là se renforcer comme ça. Ils vont pas viser le titre cette année, je pense pas. Donc, est-ce que ils avaient peut-être prévu au troisième tour de prendre un DB? C'est certainement possible. Maintenant, l'aubaine Nakobidine, dont on va parler, a fait que. Donc, je pense que finalement, c'est sûr que tu peux être déçu. Après, il en reste encore un ou deux qui sont free agents, qui peuvent très bien aller récupérer pour faire la saison. Je pense à Djibouye notamment, qui est un vétéran qui peut très bien tenir la baraque. Donc ça reste quand même solide, même sans DB.
Oui, j'ai pas regardé tout le listing en effet des free agents restants, notamment sur le poste de corner, mais bon, on voit qu'il y a quand même encore des opérations à faire, même si bon, on sait pas trop si c'est des joueurs qui peuvent éventuellement être relativement coûteux ou pas, et surtout relativement efficaces. On a vu qu'ils ont signé Steven Nelson sur le tard la saison passée, ça a pas forcément été gage de succès derrière. Si tu juges du coup cette draft, est-ce qu'on part plutôt sur des encouragements, des félicitations, un redoublement, pourquoi pas?
Non, là, honnêtement, il y a vraiment deux phénomènes dans cette draft. Donc, c'est de faire le choix du trade pour Edgy Brown et de récupérer Nakobidine aussi bas. Nakobidine, il était annoncé top 30, enfin en tout cas premier tour. Et il est descendu, il le récupère, soi-disant, donc il aurait un petit problème à l'épaule, hein, il me semble. C'est ce qu'il avait refusé une chirurgie.
Genou, je crois.
Au genou, voilà.
Bon, je pense que c'est ça.
Bon, donc il a un problème physique, il a pas voulu se faire opérer, donc c'est ce qu'il a fait descendre. Maintenant, si ça marche, c'est le style de la draft. Donc, pour Nakobidine, pour Edgy Brown et Jordan Davis, même si on n'était pas, nous, dans la rédaction, les plus grands fans du joueur, ça reste cohérent par rapport à l'âge de Fletcher Cox. Donc moi, je pars sur des félicitations pour les Eagles.
C'est aussi mon cas. Alors visiblement, c'est vraiment une draft très particulière pour les Eagles, parce que je le disais tout à l'heure, on choisit la qualité à la quantité. En tout cas, on n'a pas hésité à faire dans la prise de risque du côté de Howie Roseman, parce que on l'a dit, alors Jordan Davis, on prend un joueur relativement haut, qui disputera peut-être pas les snaps, mais en attendant, je pense que son utilisation dans un comité de lineman défensif intérieur, ça peut que faire des dégâts à mon sens, pour tourner avec Fletcher Cox, Javon Hargrave, voire Milton Williams. Ça peut vraiment être quelque chose de très très intéressant, son utilisation pour vraiment le rendre pleinement efficace quand il aura disputé des snaps. Et puis on a également la petite interrogation, même si encore c'est un tour relativement bas, mais contre Calcaterra, le tight end des CMU, dont on n'a jamais remis vraiment en cause le talent, mais voilà, qui traîne pas mal de commotions, qui a pris aussi une retraite momentanée universitaire. Donc voilà, ça va être un petit point d'interrogation. Après, très franchement, voilà, il y a des choix osés et des choix qui renforcent très clairement l'équipe, que ce soit en attaque ou en défense. Ça me paraît compliqué de ne pas partir sur des félicitations concernant les Eagles. On enchaîne sur les Dallas Cowboys à présent, avec notamment les principaux choix. Tyler Smith, lineman de Tulsa, drafté au premier tour. On a Sam Williams, edge rusher d'Ole Miss, au deuxième. Jalen Tolbert, crossover de South Alabama, au troisième. Après, par la suite, dans les choix, on va dire intéressant, on a vraiment blindé les lignes, et notamment la défense du côté de Dallas, avec notamment le choix Damon Clark, linebacker d'LSU. On sait que les Cowboys étaient une des équipes qui avait misé sur Jalen Smith, le linebacker de Notre-Dame à l'époque, malgré ses problèmes de blessure. Malgré l'opération à venir pour Damon Clark, on a également misé sur le joueur d'LSU. Quel bilan tu tires de cette sélection de Dallas? Est-ce que ça te paraît suffisant pour leur faire franchir un palier supplémentaire la saison prochaine?
Bah, en tout cas, ils ont comblé les trous, enfin, ils ont répondu aux besoins. Donc, il y a vraiment de la cohérence dans cette draft. Ils avaient des besoins sur la ligne offensive avec le départ de Lyle Collins et de Connor Williams. C'est renforcé avec Tyler Smith. Alors, on peut discuter sur ce que ça valait vraiment un premier tour. On en avait parlé là aussi, on en avait parlé ensemble. C'est un joueur qui oscillait pas mal dans les boards et dans les mocks. Maintenant, c'est cohérent. Après, moi, j'aime beaucoup la sélection de Valetsko. Je crois qu'ils l'ont pris au quatrième tour pour être à terme le tackle titulaire à droite et peut-être plus mettre Smith à l'intérieur de la ligne. Donc, c'est cohérent. Ils avaient besoin de renfort sur le pass rush. Ils prennent Sam Williams. Ils ont perdu Amari Cooper. Ils prennent Tolbert. Ils ont perdu Jarwin. Ils prennent Ferguson. Donc, il y a beaucoup de cohérence. C'est peut-être pas flashy. Ils n'ont pas été particulièrement actif, monter des échanges, etc. Mais je trouve que c'est logique. Damon Clark, t'en as parlé, c'est aussi... ils peuvent se permettre, ils l'ont pris relativement tard, ils peuvent se permettre d'attendre. Ils ont quand même encore un second rideau qui est quand même plutôt solide. C'est vraiment pas mal. Honnêtement, ça coche les cases, ça répond aux besoins. Donc, voilà, sans être particulièrement sexy, c'est sérieux en tout cas.
Oui, c'est ça. On n'est pas dans du côté hyper glams ou alors je dis pas que c'était pas un besoin à l'époque, mais on part sur un Sid Lamb au premier tour parce que l'opportunité se présente. Là, c'est sûr que la ligne offensive, de par les décisions qui ont été prises pendant l'intersaison, ça devenait une priorité, et de par les principaux linemen qui étaient partis, et tu le disais, de par le fait qu'on avait assez facilement identifié le fait que Tyler Smith, de par son profil athlétique, pouvait intéresser pas mal de franchises et pouvait être assez polyvalent malgré tout dès son arrivée dans la ligue. C'était un choix assez intéressant à surveiller. Et oui, globalement, que ce soit en attaque ou en défense, les principaux secteurs à combler, c'était quand même sur les lignes, dans les tranchées, et je trouve que ça a été globalement bien considéré. Jalen Tolbert, pour apporter un peu de verticalité justement sur le jeu aérien, c'est pas trop, mais ça me paraît assez complémentaire de Michael Gallup et CDM. Donc, bon, on part sur quoi concernant les Cowboys de ton côté? Plutôt félicitations ou encouragement du coup?
Je suis parti là aussi sur les félicitations pour tout ce que j'ai expliqué. Voilà, c'est une draft qui répond aux besoins, c'est sérieux, c'est appliqué, ça renforce. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres alternatives, c'est réussi.
Ouais, j'ai pas donné le consensus un peu de la rédaction, mais ça allait sur des félicitations aussi, que ce soit pour les Eagles ou les Cowboys. NFCS, globalement, ce n'est pas trop mal sorti, hein. On en parlait tout à l'heure, mais ouais. On va parler justement des New York Giants, hein, qui avaient l'aubaine, d'avoir un cinquième et un septième choix lors du premier tour de la draft. Ils en ont profité pour récupérer Kayvon Thibodeau, donc edge rusher d'Oregon, Evan Neal, tackle d'Alabama. Arrivé un petit peu plus tard de Wandale Robinson, receveur de Kentucky, a priori pour indiquer que la fin de la sommaire ère Kadarius Toney du côté de New York était sur le point de se terminer. Et puis après, voilà, j'essaie de voir un petit peu. Globalement, on a beaucoup, beaucoup de défense avec Cordell Flott, corner d'LSU, Dan Belton, safety d'Iowa, Mike Fadden, notamment linebacker d'Indiana. Darian Beavers, également linebacker de Cincinnati, qui récupère relativement tard. C'est pas une mauvaise opération en soi. Ils ont pris pas mal de chouchous de Jean-Michel, d'ailleurs, hein, entre Josh Ezeudu, le guard, Daniel Bellinger, le tight end. Apparemment, on a voulu se mettre Monsieur Boujard dans la poche. Je vais te le dire tout de suite, Alex, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. J'aime bien le début de draft des Giants. Je suis un peu plus mitigé par la suite.
Alors, l'année dernière, je les avais un petit peu allumés, les Giants, pendant le débrief de la draft, parce que je trouvais que ça manquait énormément de cohérence. Et ben cette année, j'aimerais le tirer de mon chapeau. Alors je sais que je suis certainement le plus enthousiaste de la rédaction sur leur draft. Tout n'est pas parfait, mais ça va vraiment dans le bon sens. Effectivement, tu l'as dit, leur début de draft, il est vraiment top avec Thibodeau et Neal. C'est vraiment les bons choix au bon moment. Tu avais besoin de renfort sur le pass rush, tu prends Kevon Thibodeau, qui est vraiment un monstre et qui va vraiment pouvoir contribuer tout de suite. Et je pense être clairement en lice pour le rookie défensif de l'année. Evan Neal, lui aussi un monstre physique qui est typé pour jouer à droite. Et quand tu as Andrew Thomas que tu as installé à gauche, c'est cohérent. Plus cohérent que s'ils avaient pris Charles Cross, même si après, en termes de niveau de joueur, ça peut se discuter. C'est vraiment bien pensé. Moi aussi, j'aime beaucoup Darren Beavers en fin de draft. Pour moi, c'est un vrai style. Et je n'étant pas un grand fan, pour l'avoir bien connu, de Blake Martinez, qui en plus revient de blessure, je pense qu'il pourrait très bien avoir des snaps assez rapidement. Idem pour McFadden.
Oui, surtout en tout cas en équipe spéciale, même si on sait que la finition, c'était un petit peu son petit péché mignon à Beavers sur équipe spéciale. Je pense que les Giants vont pas être déçus avec lui dans un premier temps.
Voilà. Après, ils avaient aussi besoin d'un tight end, bah, Bellinger. Moi aussi, je l'aime beaucoup. J'étais pas surpris qu'il sorte au troisième tour, alors qu'il était parfois annoncé plus loin. J'étais un peu triste parce que c'est un joueur que j'aurais bien aimé voir à Green Bay, par exemple. C'est vrai que je suis un peu plus réservé sur leur deuxième tour. Robinson, on l'attendait pas forcément si haut. Mais a priori, on va en reparler. Je pense que Jean-Michel, pardon, et Victor en ont parlé dans leur émission. Les receveurs au second tour, il y a eu quand même quelques surprises et quelques reaches. C'est pas spécialement celui que j'aurais choisi, mais hormis ça, je trouve que c'est très bien parce que Flotte, ça répond aussi à un besoin. Puis de toute façon, une draft des Giants sans cornerback, c'est pas une draft parce qu'ils en draftent tout le temps. Ils en ont toujours tout le tour du ventre. Donc, c'est vraiment cohérent. C'est vraiment intéressant. Tu peux discuter du nom du joueur sur Robinson, mais c'était un besoin le poste. Donc après, c'est difficile de savoir si ça va être une réussite ou pas. Ça, c'est donc en termes de stratégie, c'est logique. Si c'était le receveur numéro un sur leur board à ce moment-là, il y a rien à redire. L'avenir leur donnera raison ou tort.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que tu parlais des cornerbacks. Moi, ce qui me perturbe un petit peu avec les Giants ces dernières années, c'est que on priorise beaucoup des profils un peu nickel et pas forcément des corners purs et durs sur l'extérieur. Ça peut être quand même rédhibitoire, surtout quand tu vois que les Eagles font venir Edge Brown et que les Cowboys tourne quand même avec CeeDee Lamb. On n'oublie pas qu'Adoree Jackson traîne quand même un petit peu la patte depuis quelques années maintenant et que a priori James Bradbury a jamais été aussi proche de la sortie qu'à l'heure actuelle. Donc c'est pas le simple profil de Cordell Flott en soi qui me rassure, même si je ne doute pas que sur un profil de corner, voilà, il n'a pas montré que des mauvaises choses à LSU, donc très clairement, faut laisser le bénéfice du doute là-dessus. Après, oui, je te rejoins dans le sens où il y a beaucoup de joueurs extrêmement besogneux, beaucoup de joueurs qui sortent d'universités très très typées. Encore une fois, Bellinger, Belton, McFadden, même Beavers dans une moindre mesure. Voilà, c'est des joueurs qui vont pas hésiter à, ça va être entre guillemets des bons soldats, des joueurs qui vont pas hésiter à se dépouiller s'il y a besoin de le faire. Après, voilà, ça reste une première année où de toute façon, on s'appuie sur des choix de draft pour éventuellement construire un petit peu sur le roster, parce qu'on a eu une marge de manœuvre extrêmement réduite au niveau de la free agency. Donc, je pense que c'est un premier tour d'effectif, on va dire, pour voir de la part de Brian Daboll et Joe Shone ce que éventuellement on peut avoir sur le papier. Donc, c'est pas incohérent en soi d'avoir des joueurs de devoir dans un premier temps. Mais bon, ça va peut-être être un petit peu léger pour la première année de Brian Daboll. Je trouve, en tout cas, pour vraiment optimiser l'effectif. Moi, je juge toujours une draft sur l'impact immédiat que ça peut avoir, même si on sait très bien qu'une draft, ça se juge pas que sur une année. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, sur les Giants, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus. C'est ce qui m'amène à tempérer plutôt et à rester plus sur des encouragements concernant le G-Man.
Alors, bon, moi, j'y étais allé sur félicitations, vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Après, j'entends les réserves et je les comprends. Donc, mais je voulais saluer le retour à la logique par rapport à l'année dernière où, avec une ligne offensive dépeuplée, ils sélectionnaient aucun lineman offensif. Ils prenaient des profils qui n'étaient pas, je trouve, adaptés. Et là, ils ne peuvent que progresser. Alors, après, c'est les aléas de la NFL, ils peuvent tous se casser la jambe pendant les training camps, etc. Mais ça va dans le bon sens. Et comme tu l'as dit, avec tellement peu de salary cap et donc peu de renforts sur la free agency, l'effectif, il s'étoffe de manière cohérente. Donc, j'aime bien. Je trouve que ça va dans le bon sens.
Bon, en tout cas, on était parti sur des encouragements d'un point de vue consensuel, on va dire, au sein de la rédaction. Washington Commanders, avec les principaux choix qui étaient donc Jahan Dotson, receveur de Penn State au premier tour. On est encore parti du côté d'Alabama, de la part du board des Commanders, avec Phil Darian Mathis, notamment lineman défensif au deuxième tour. Brian Robinson, running back d'Alabama également un petit peu plus tard. Et puis, une des signatures intéressantes, une des drafts intéressantes, c'est Sam Howell, donc quarterback de North Carolina, appelé à être potentiellement le backup de Carson Wentz la saison prochaine. Alors, je vais le dire tout de suite, le consensus a voulu qu'on parte sur un redoublement du côté des Commanders. Je pense que et toi et moi sommes assez, comment dire, pas réfractaire, mais en tout cas, voilà, ça paraît un petit peu sévère parce que globalement, il n'y avait pas énormément de besoin chez cette équipe de Washington et ça a été assez bien consolidé le peu de besoin qu'ils avaient.
Ouais, c'est sévère parce que déjà par la sélection de Sam Howell au cinquième tour, ils font une affaire, sincèrement. Je pense que c'est un joueur qui a beaucoup pâti de son manque, enfin de la perte de ses cibles cette année. J'ai pas dit qu'il était parfait ni que c'était un quarterback élite, mais il vaut certainement mieux qu'un cinquième tour. Quand tu fais venir Carson Wentz avec son historique récent, t'es tout sauf rassuré et confiant sur les prochaines années. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un vrai style, une vraie bonne affaire. Après, ce qui m'a gêné, parce que je remets pas en question le choix des joueurs. En l'occurrence, je vais parler de Mathis. Donc, effectivement, on sait qu'ils aiment les defensive linemen d'Alabama, parce que déjà Payne et Allen, ce sont des gars du Crimson Tide. C'est vrai qu'ils ont perdu Onidis, donc ils se renforcent pour avoir de la rotation. Mais ils ont Allen et Payne qui sont des très très bons joueurs. Donc, je suis pas certain que c'était pertinent de sélectionner de nouveau un defensive tackle si haut, et moi je serais parti sur le poste de safety. Par contre, je trouve qu'ils avaient vraiment des besoins, dans la mesure où en plus ils ont coupé London Collins. À cette place-là, il y avait notamment un joueur que j'aime beaucoup, Jaquan Brisker, qui était encore disponible. Je pense que ça aurait pu leur faire beaucoup plus de bien que ce que va leur faire Mathis. Maintenant, ça reste. Enfin, il y a des bonnes choses. Je trouve que Dotson, c'est peut-être un peu haut. Enfin, moi en tout cas, je ne l'avais pas si haut. Un running back au troisième tour, c'est sûr qu'il va leur apporter quelque chose de différent de Gibson, mais est-ce que c'était la priorité? Je sais pas. Voilà, c'est ça en fait. C'est bien, mais c'est.
Ça a relativisé malgré
voilà,
tout.
Voilà, c'est bizarre en fait.
On va dire que oui, après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'équipes en tout cas qui construisent maintenant par les lignes défensives, donc j'imagine que Mathis, cette stratégie-là. Mais je te rejoins à 200%. C'est vrai que, voilà, je te disais, il n'y a pas énormément de besoins sur des starters immédiats. Et en effet, peut-être qu'il y a eu d'autres besoins. Alors, le poste de safety, ils l'ont considéré avec Percy Butler de Louisiana un petit peu plus tard, mais qui m'apparaît un peu plus comme un projet. Donc, mais bon, en tout cas, on fait en sorte d'entourer ou en tout cas de considérer peut-être un peu plus le poste de QB que ces dernières années. Il a un backup, un nouveau running back. Une cible potentiellement prioritaire, parce qu'a priori, Jahan Dotson, ça arrive quand même comme numéro 2 avec Terry McLaurin. Donc, ça va être à surveiller. Et
ça,
je recontextualise, parce que du coup, je parlais de redoublement. Donc, ça, c'est l'avis un peu consensuel. Ces avis-là, ils s'appuient un peu sur un espèce de ranking qu'on a établi au sein de la rédaction sur les différentes équipes, en tout cas sur nos coups de cœur et ce qui nous a un peu plus laissé sur notre faim. En soi, la draft des Commanders n'est pas critiquable en soi, mais peut-être moins valorisée que celle d'autres. Donc, c'est ce qui nous amène à cette conclusion-là. Je te laisse reprendre, Alex, ton propos avant qu'on enchaîne sur le.
Oui, non, là, par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils font en sorte que de pouvoir tester Carson Wentz dès cette saison, et parce qu'ils le mettent dans les bonnes dispositions. Terry McLaurin, c'est un receveur numéro 1. Il fait partie des tout meilleurs receveurs de la Ligue, au moins top 10 sans problème. Curtis Samuel, s'il n'est pas blessé, ça reste un bon gadget. Donc là, tu rajoutes Dotson. Tu as aussi, après, derrière, Diami Brown et Gundy Golden, qui est toujours là aussi, qui sont des joueurs jeunes et qui peuvent contribuer dans la rotation. Donc, tu as vraiment une escouade de cibles qui est, en plus de différents profils, qui est là pour épauler, entourer et donner des solutions à Wentz. Donc ça, c'est intelligent et intéressant. Et on va pouvoir relativement vite voir ce que ça peut donner.
Tout à fait. Bon, en tout cas, voilà, on attend encore des petits motifs pour nous rassurer du côté de Washington, mais ça reste malgré tout une draft où on a considéré quelques besoins assez prégnants. On passe à la NFC Sud à présent et on va commencer, si tu veux bien, par les New Orleans Saints. Alors, ça ne concerne pas directement la draft, mais on sait que New Orleans a comblé son effectif il y a quelques heures de cela avec la signature de Tyrann Mathieu, l'ancien safety de Kansas City et surtout ancien safety d'LSU, hein, donc un petit retour à la maison pour le Honey Badger. Concernant leur draft, on sait qu'ils avaient deux premiers tours au cours de cette classe. Ils sont plutôt allés sur des besoins avec Chris Olave, receveur d'Ohio State, via un trade-up, et Trevor Penning, tackle de Northern Iowa. Et puis un petit peu plus tard, on avait notamment dans les principaux choix Alante Taylor, defensive back de Tennessee, je crois, dès le deuxième tour d'ailleurs, et DeMarco Jackson, linebacker d'Appalachian State, un petit peu plus tard. Alors, je vois beaucoup de choses. On va dire que c'est une draft qui ne laisse pas indifférente. Je vois beaucoup d'avis un petit peu contradictoires sur les Saints. Où tu te places? Est-ce que tu restes sur la logique de là encore, comme pour les Eagles, qualité plutôt que quantité? Ou est-ce qu'il y a des choix qui te laissent un peu plus pantois?
Pour ce qui concerne le premier tour, honnêtement, je suis emballé, clairement. En plus, on peut dire qu'on a eu du nez, parce qu'on avait annoncé ces deux noms-là dans la pastille. Donc,
oui, du côté des Saints, on a été disciplinés, on est parti sur les besoins. Ouais.
Voilà, donc ils nous ont écoutés apparemment. Donc avec Olave et Penning, c'est des choix dont ils avaient besoin. C'est cohérent. Alante Taylor, je suis un peu plus circonspect. Maintenant, on avait aussi pointé ce poste-là comme un besoin éventuel. Moi, je la trouve correcte, cette draft. Il n'y a pas de...
Moi aussi.
J'aime vraiment bien leur premier tour, mais vraiment beaucoup. Après, on les connaît. Le defensive tackle en fin de draft, c'est certainement quelqu'un qui vont pouvoir développer, qui va contribuer dans la rotation. Donc, ça reste cohérent. Taylor, ils peuvent se permettre de le développer dans le sens où il y a quand même déjà Latimore et Adibo qui sont donc officiellement, normalement, les titulaires. Donc,
oui, et puis juste, si tu me permets, on parlait beaucoup de Daxton Hill. Alors, il n'a pas le talent athlétique d'un Daxton Hill, bien au contraire, mais je pense qu'il a la polyvalence à l'Alante Taylor. Il a cette capacité justement à pouvoir dépanner partout, notamment sur la position de safety, je pense. En tout cas, c'est là qu'il est projeté par beaucoup de franchises. Et manifestement, safety, même s'il y a eu le renfort de Mathieu, c'est pas forcément un mal d'avoir justement un petit backup de luxe justement derrière May, Mathieu ou Garner Johnson, si vraiment ça tourne au vinaigre, ou en tout cas un joueur capable de brouiller un petit peu les cartes au niveau du secondary. Donc voilà, donc on reste globalement sur une draft assez cohérente. On va faire plus long s'il n'y a pas besoin de développer plus que ça. Tu pars sur quelle note du coup pour les Saints à titre personnel?
Tu pars sur des solides encouragements quand même, hein, parce que pour moi, ils sont renforcés vraiment et ils se positionnent clairement comme une équipe pour les playoffs, sans aucun doute.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, moi, j'étais entre encouragement et félicitations parce qu'encore une fois, je suis pas choqué par les choix de Taylor et Jackson, en plus, que j'aime bien. Enfin, DeMarco, en l'occurrence, parce qu'il y a deux Jackson draftés dans leur classe. Après, oui, on va dire relavé, c'est vrai qu'il y a une. C'est toujours la question de l'investissement pour pouvoir récupérer le joueur qui te plaît. Encore une fois, quand t'as une équipe relativement complète comme l'avait les Saints, c'est que t'assumes le fait que de toute façon, il n'y a pas de quarterback qui t'intéresse suffisamment pour en prendre un au premier tour. Parce que visiblement, il y a beaucoup d'équipes qu'on fait un peu l'impasse sur les QB dans cette classe. Ça me choque pas en soi de mettre toutes les chances de ton côté pour récupérer ton receveur numéro 2 et ton tackle droit, voire gauche d'ailleurs, pour les années à venir. Donc, encouragement, je crois que c'est également le consensus global au sein de la rédaction. On passe au Tampa Bay Buccaneers avec notamment Logan Hall, defensive lineman de Houston, drafté en début de deuxième tour. Ensuite, on a des choix, on va dire, plutôt pour assurer la rotation, pour assurer un peu de profondeur. Luke Giddeke, le lineman polyvalent de Central Michigan. Rashad White, le running back slash receveur, on va dire, d'Arizona State. Et puis, on a également Cade Otton, tight end de Washington. Un punter également, Jake Camarda de Georgia, qui a été drafté relativement haut. Là aussi, hein, on avait un effectif assez complet du côté des Bucks. On est plus parti sur des préférences personnelles plutôt que sur le meilleur, à part peut-être Logan Hall qui présentait vraiment une aubaine en début de deuxième tour. Globalement, c'est du comblage, on va dire.
Bah, c'est ça, c'est une équipe qui s'est renforcée avec le retour de Brady après sa retraite express. Ils ont fait revenir quasiment tout le monde, donc ils avaient un besoin. C'était remplacé Ndamu Kongsu qui lui n'est pas revenu pour le moment en tout cas, et il s'est fait avec Logan Hall. Donc ils ont fait un trade back, ils ont reculé, ils prennent le meilleur joueur disponible sur leur board qui comble un besoin. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense que à côté de Vita Vea, ça va être hyper complémentaire. Ça peut vraiment être, surtout dans cette 34-là, ça peut vraiment être sympa. Godecki, bah, ils avaient des besoins sur la ligne parce qu'ils ont quand même, il y a eu quand même la retraite de Marpet. Donc, est-ce que ça va être un titulaire pour la première semaine? Peut-être pas, mais il a ce profil polyvalent, tu disais, qui peut vraiment être intéressant. Et moi, c'est un joueur que j'aime bien. Alors, deuxième tour, c'est vrai que ça peut surprendre. Mais bon, au niveau des gardes pris trop tôt dans cette draft, on en a vu quand même, on a vu pire. Hein. Donc, je trouve que c'est un choix intéressant. Running back, je sais pas si c'était, si c'était si urgent, mais ce côté double menace dont tu as parlé, clairement, pour un Brady, ça peut lui donner, en plus, avec un nom qui, avec le même nom de famille, ça peut lui rappeler ce qu'il a connu aux Patriots avec White.
Oui, il remplace numériquement Ronald Jones, très clairement, dans ce profil-là, même si je pense qu'il a encore plus de capacités, il a des meilleures mains encore en
sortie. C'est possible, ouais, tout à fait. Et puis, au poste de tight end, il y avait des besoins parce que bon, Gronkowski, je pense que ça fait pas trop de doute qu'il va revenir certainement pendant l'été. Mais ils ont quand même perdu O.J. Howard. Donc, Auton, c'est un renfort au moins numérique. Après, on verra s'il a la même production. Mais c'est vraiment une draft bien menée, sans nom clinquant, sans trop de vagues, mais c'est bien pensé.
Il y a un petit nom un peu intriguant, c'est Zaven McCollum, le cornerback de Sam Houston State, draft un petit peu plus bas, hein, je sais plus, je crois que c'est un cinquième ou sixième, je vais pas me tromper dans le tour, parce que je n'ai pas sous les yeux, mais en l'occurrence, voilà, ça reste une bonne opération malgré tout, ça peut être un joueur intéressant à développer, surtout dans la défense de Todd Bowles, mais voilà.
Surtout qu'il y a de la place à ce poste chez eux, je pense qu'il y a des places à se faire.
Il y a moyen de grimper assez vite dans la hiérarchie des camps d'entraînement, donc on est d'accord là-dessus. Ouais. Alors, globalement, au niveau de la rédaction, c'était un peu à cheval entre passable et encouragement. Je crois qu'on est plus sûr du passable, mais de très très peu. Où tu te places de ton côté?
Moi, je suis sûr des encouragements. Après, c'est vrai qu'un punter au quatrième tour, ça peut, on peut être réfractaire à ça et donc on peut faire basculer en passable. Mais sinon, le reste, les cases sont quand même relativement bien cochées. Donc, je trouve que ça serait un peu sévère de rester sur passable en ce qui me concerne.
Oui, je suis un peu entre les deux, mais oui, plus encouragement en l'occurrence, ça me paraît difficile de critiquer, alors que, comme on l'a dit, voilà, c'est plus pour assurer de la profondeur que vraiment pour vraiment aller chercher du star power à outrance, qui était peut-être plus nécessaire dans d'autres équipes d'AFC. Hein, je vous renvoie vers un débrief de l'AFC, mais voilà, je sais que tout le monde n'était pas d'accord, par exemple, sur la draft des Texans. Hein, mais bon, là n'est pas le sujet, on peut enchaîner sur la suite. On va parler du coup des Carolina Panthers, qui avait donc des décisions importantes à prendre, hein, à savoir la question du quarterback. Quarterback, il y a eu, mais au troisième tour. Alors, j'ai juste rappelé les choix importants avec Amy Kwanu, tackle d'NC State, drafté avec le sixième choix. Matt Corral, quarterback d'Ole Miss, qui est donc l'heureuse élue du côté des Panthers. Et puis un petit peu plus loin, on avait notamment Brandon Smith, linebacker de Penn State, ou encore Amare Barno, edge rusher de Virginia Tech, qui est le premier rookie, je crois d'ailleurs, à avoir signé son contrat post-draft. Globalement, on a privilégié des besoins du côté de Carolina. Alex, pas beaucoup de surprises non plus. Matt Corral, où est-ce que tu te positionnes, toi, à titre personnel? Est-ce que Carolina, c'est le bon fit pour toi?
Est-ce que c'est le bon fit? Je sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que là où ils l'ont pris, c'est une aubaine. Moi, Corral, je l'avais premier tour largement. C'était mon quarterback préféré de cette QV, alors qui est certes pas la plus sexy de ces dernières années, mais le récupérer au troisième tour quand tu n'as que Sam Darnold, je trouve que c'est quand même carrément bien réussi. Donc après, il va falloir voir ce que ils peuvent en tirer, sachant que Matt Rhule n'est pas un QB gourou, comme on dit. Donc parce que je pense qu'il a quand même un peu besoin de temps pour pouvoir encore mûrir et se développer. Je ne suis pas certain que ça soit la meilleure service à lui rendre que de le lancer tout de suite en septembre. Après, au moins que ça soit lui ou Darnold sera un peu mieux protégé, donc avec Ekwonu. Alors là aussi, on peut discuter, est-ce que Charles Cross, qui est un pur tackle gauche, aurait été un choix plus intéressant? C'est mon avis, mais c'est ça ne veut pas dire qu'Ekwonu ne va pas faire une carrière fantastique. Donc ça, encore une fois, sur les joueurs en particulier, c'est difficile de se positionner. Après, moi, je trouve qu'il y a des bonnes choses en fin de draft aussi. Mays, comme garde, c'est un mec qui pourra probablement se faire une place. C'est un joueur que j'aimais bien, qui a aussi joué à tous les postes à Tennessee. Et puis Barnes, le corner, la fusée du combine, parce que c'est le DB qui a couru le plus vite au combine. Bon, c'est un renfort intéressant, surtout en toute fin de draft comme ça, au septième tour. ça mange pas de pain et ça comble un peu, enfin ça renforce la rotation. Donc c'est vraiment une bonne draft, voilà. Mais c'est mis en avant par Corral. Ils n'avaient pas énormément de choix. Hein. Il y avait un gros trou entre leur sixième pick et le pick suivant. Mais ils ont pris le risque de monter un peu pour aller chercher Corral. Et franchement, bah, je trouve que c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner.
Alors, au niveau de la rédaction, justement, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. On part plutôt sur des félicitations. Malgré le peu de choix qu'avaient les Panthers à disposition, globalement, ça satisfait. Donc, j'imagine que tu rejoins ces félicitations.
Ouais, j'ai hésité justement parce qu'il n'y avait pas énormément de choix. Et que voilà, genre, personnellement, je serais parti plus sur Cross qu'Ekwonu. Mais la sélection de Matt Corral, pour moi, les fait passer en félicitations.
Ouais, moi j'étais plus sur encouragement, mais moi je n'ai rien contre les félicitations globalement. Ça me paraît en tout cas une draft assez cohérente, encore une fois, mais il y avait une direction claire à prendre du côté des Panthers s'ils l'ont prise, donc on en parlera peut-être tout à l'heure. C'était peut-être pas forcément le cas de toutes les franchises de NFC. Sans transition, quoique, on va parler des Falcons pour terminer la NFC Sud avec donc Drake London, notamment receveur de USC au premier. On a Arnold Ebiketie, edge rusher de Penn State, Troy Anderson, linebacker de Montana State, ou encore Desmond Ridder, quarterback de Cincinnati, et D'Angelo Malone, edge rusher de Western Kentucky. Ça, c'était pour les trois premiers tours. Ce qu'on peut retenir également, c'est Tyler Allgeier, running back de BYU, qui arrive et qui a déjà provoqué le cut de Mike Davis. Hein, donc, a priori, on a quand même des objectifs assez élevés, mine de rien, pour le genre de Brigham Young. Où tu te situes? Moi, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit pendant le jour de la draft. Voilà, je reste assez mitigé, même si tout n'est pas haché dans cette draft d'Atlanta. Où est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu as globalement compris la direction qui a été prise par Terry Fontenot et Arthur Smith?
Alors, je vais aller à contre-courant de ce que vous avez dit tous les trois pendant le live.
Tu adores.
Le live du premier
tu
tour.
Achètes.
Ouais, j'adore carrément cette draft des Falcons. J'ai entendu tes réserves et je les comprends. Positionné comme ça, je serais peut-être plus logiquement parti vers Kyle Hamilton, en l'occurrence en 8, que vers un receveur. Je sais que tu n'es pas un grand fan de Drake London. Tu sais que moi, par contre, je l'aime bien. J'ai entendu Jean-Michel dire que c'était le pic le plus what the fuck qu'il ait jamais vu. Je pense que c'est quand même un peu carrément exagéré, parce que je peux en citer une dizaine là comme ça, ne serait-ce que Trevon Walker, que Jordan Love, que Jordan Brooks. Enfin voilà, donc faut quand même pas exagérer. C'était un besoin, parce que clairement les squads de receveurs des Falcons, sans leur manquer de respect, elle fait peine à voir. Donc là au moins t'as
encore
un
aujourd'hui.
Receveur. Voilà, bah il est tout seul. Donc
bah, c'est ça.
Alors, bien sûr, Calvin Ridley n'est que, entre guillemets, suspendu, il devrait revenir. Il n'y avait pas que son problème de suspension, parce qu'il avait aussi des problèmes un peu psychologiques ces derniers mois, en tout cas les derniers mois de la saison. Les besoins en défense, pour moi, derrière, ils sont quand même largement comblés, parce que Arnold Ebiketie et D'Angelo Malone, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Je pense qu'au niveau du pass rush, ça sort quand même vachement renforcé. Alors, c'est pas Jermaine Johnson, c'est pas Kevin Thibodeau, mais c'est quand même vachement mieux que ce qu'il y avait avant. Troy Anderson, le joueur couteau suisse qui va jouer linebacker, qui peut-être, si Arthur Smith a envie de s'amuser un peu, peut le faire jouer sur quelques séquences offensives. Je trouve ça intéressant. Desmond Ridder, c'est pas mon quarterback préféré, mais ça, il aura au moins le mérite de mettre un peu la pression sur Mariota et de le pousser peut-être un petit peu. Donc, je trouve que c'est vraiment cohérent. Au moins, tu as Mariota à deux cibles, Pitts et London. On peut discuter de son profil, l'histoire de la séparation, etc. Je peux entendre tout ça. Maintenant, ça restait un poste à besoin. Donc, si c'est le joueur qui préférait, si c'est lui en qui il croit, je vois aucune objection. Moi, je vous ai trouvé dur tout au long du processus draft sur London, parce que je trouve qu'il a quand même énormément de qualité et que bah, il sait quand même se défaire des joueurs, parce que tu fais pas 150 yards par match si t'es pas bon. Surtout, enfin, dans une conférence du Power 5.
Ça dépend sur quelle arme tu joues, mais j'entends ce que tu dis.
Voilà, non, mais ça va être un bon joueur. Alors, peut-être que ça ne sera pas le meilleur receveur de la QV. Mais voilà, moi, j'aime cette draft. Et honnêtement, ça faisait plusieurs saisons que je ne sortais pas emballé de la draft des Falcons. Là, cette année, je dis, c'est bien. Voilà, c'est vraiment
encouragement, au moins. Ou félicitations.
Ah, moi, j'étais sur félicitations, mais je sais que je suis le seul. Voilà, donc j'ai pas envie de me fâcher avec toi, donc je veux bien descendre
d'un cran. Je te rassure, il m'en faudra appeler ça.
Je veux bien descendre d'un cran. Mais voilà, après, à partir du moment où je sais que toi, tu n'aimais pas Drake London et que moi, je l'aime beaucoup, à partir de là, on est en désaccord là-dessus, donc c'est logique. Mais je trouve que c'est quand même très cohérent. Et il me semble d'avoir entendu dire que sur le reste de la draft, tu n'étais pas forcément mécontent. Enfin, il y a des trucs que tu trouvais pas trop mal.
Honnêtement, il y a des choix où je suis un peu étonné. Enfin, même Troy Andersen en défense, je pense qu'il peut faire, du bien, mais c'est vrai que c'était peut-être pas un besoin prioritaire. Hein. Je pense que la ligne défensive intérieure, en tout cas, a peut-être besoin d'être renforcée. Après, de toute façon, avec Atlanta, à partir du moment où il n'y a pas eu beaucoup de trades, en tout cas de trade down, notamment pour obtenir plus de choix, le nombre de besoins assez conséquents faisait que de toute façon on serait ressorti avec un arrière-goût un petit peu amer. Donc moi je rejoins globalement l'avis consensuel qui est passable, mais j'entends parfaitement qu'on puisse apprécier ce qu'a fait Atlanta, surtout sur quelques choix qui moi ne me plaisent pas, mais qui peuvent convenir à d'autres personnes, toi y compris. Donc voilà, bon, en tout cas on attendra à voir ce que ça peut donner, mais pour reprendre ma logique, c'est voilà, je vois pas forcément une transformation, en tout cas des éléments qui feraient que ça pourrait refaire basculer à l'intersaison négative d'Atlanta. Donc, c'est aussi pour ça que je reste un peu mitigé là-dessus. On passe à la suite, du coup, avec notamment la NFC Nord.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Et du coup, il n'y a pas que toi qui est contradictoire, mon cher Alex, je taquine bien sûr, mais en tout cas qui est plus positif sur les équipes favorites de ses confrères. On va parler des Green Bay Packers. Et alors là, je suis très très curieux d'avoir ton point de vue, puisque ça a été une draft assez animée, hein, des Packers, parce qu'il y a pas mal de choix de draft à disposition. Et au contraire des Eagles, on a investi sur ces choix de draft, avec notamment la sélection de Quay Walker, linebacker de Georgia, et Devante Wyatt, defensive lineman de Georgia au premier tour. Et par la suite, on a Christian Watson, receveur de North Dakota State, Sean Ryan, garde de UCLA. On a continué de renforcer d'ailleurs les receveurs avec Romeo Doubs, receveur de Nevada, et Samori Touré, receveur de Nebraska. Bonne opération relative, en tout cas des profils intéressants à surveiller avec les drafts tardives de Kingsley Nagbare, edge rusher de South Carolina, ou Rachel Walker, tackle de Penn State. Je te donne la parole tout de suite, Alex. Je crois savoir que tu n'es pas totalement emballé par cette draft des Packers. Qu'est-ce qui te rend sceptique ?
Alors, depuis le début de l'émission, là, je suis gentil avec quasiment tout le monde. Donc, j'espère que vous en avez bien profité parce que c'est terminé. Là, on va rentrer dans le dur. Alors, je vais commencer par le premier choix, tout simplement. Quay Walker, linebacker de Georgia, il n'y a absolument aucune logique à le prendre à ce moment-là. Tu viens de prolonger ton linebacker All-Pro, Devondre Campbell, pour 5 ans. On ne parle pas d'une saison, on parle bien de 5 ans et 50 millions. Tu as un joueur de deuxième année, Barnes, qui est plus que correct. Surtout que tu joues quand même rarement avec les deux linebackers sur le terrain. En tout cas, c'est pas plus de la moitié des snaps. Donc, je comprends pas la logique. Après, tu prends un linebacker parce que tu te dis, je vais partir sur deux énormes gladiateurs au milieu de mon terrain et ça va me tirer toute ma défense vers le haut. Ok, mais Devin Lloyd, comment tu peux prendre un linebacker qui n'est pas Devin Lloyd quand il est disponible en 22? Ça me dépasse complètement. Il est beaucoup plus complet, on a beaucoup plus de certitudes sur lui. Donc, je veux bien qu'à Green Bay, on ne scoute qu'à Georgia, parce que Eric Stokes l'année dernière, que Walker, Devontae Wyatt, ok, ils sont champions nationaux, c'est fantastique, mais il y a d'autres équipes, il y a d'autres joueurs. Donc, je ne leur reproche pas de ne pas avoir pris un receveur, parce qu'on va en parler avec Watson. Il y a autre chose là-dessus. Mais Kay Walker, qui est un joueur qui n'était pas attendu là, qui, personnellement, j'avais troisième tour, alors que tu as Devin Lloyd disponible, alors que tu n'as pas besoin d'un linebacker, ça te donne tout de suite un ton négatif à la draft. Après, il y a de bonnes choses, on va y revenir, mais à partir de là, ta draft, elle est ratée. Parce que ce choix-là, tu le récupères en échangeant Devontae Adams. Donc en fait, tu échanges Devontae Adams contre Kay Walker. La vérité, elle est là. Donc c'est ça, en fait, le problème.
Je ne sais pas si... Alors, honnêtement... J'entends ce que tu dis. Alors sur le profil de Kwai Walker, c'est sûr que je dis pas que ce serait forcément le plus adapté au système défensif de Green Bay. Là-dessus, je te rejoins à 200%. Maintenant, pour la comparaison avec Devin Lloyd, je sais pas si toutes les franchises étaient aussi hypées sur Devin Lloyd. On a eu beaucoup d'échos pré-draft que énormément d'équipes étaient plus emballées par Kwai Walker que. Enfin, qu'avait en tout cas tout simplement Kwai Walker en linebacker numéro 1. Donc après, voilà, en tant que fan, c'est sûr qu'on a plus de certitude en termes de production par rapport à ce que peut apporter Lloyd et par rapport à justement cette polyvalence qui est plus fantasmée pour Kwai Walker qu'autre chose, hein, parce que du côté de Lloyd, elle était beaucoup plus palpable du côté d'Utah. Donc là-dessus, j'entends ce que tu dis. Après, ouais, c'est le seul choix, en effet, où je peux tiquer un petit peu. Le reste, ça reste assez complet. Ton escouade de receveurs avec Christian Watson et Samori Touré, que j'aime d'amour, elle te plaît?
Oui, alors Watson, c'est un projet, donc c'est difficile de juger. En fait, le problème de la sélection de Watson, c'est la façon dont c'est fait. C'est-à-dire que le general manager des Packers, il a subi la première soirée de la draft, le premier tour, en regardant les franchises monter les unes derrière les autres pour aller chercher des receveurs. Et lui,
ça, ils sont restés patients.
Tu dis patient, moi je dis passif. C'est ça en fait le problème, c'est que tu subis et après du coup tu paniques totalement au début du deuxième tour et tu fais un panic move avec un rival pour aller chercher le 34e choix et prendre un receveur. Alors, prendre Christian Watson, ça sera peut-être un joueur fantastique, mais il vient de deuxième niveau universitaire. Il a 12% de drop. Quand tu sais à quel point Aaron Rodgers n'aime pas les joueurs qui droppent la balle et a tendance à vite les ignorer, déjà, ça me gêne. C'est un profil qui ressemble, alors en plus rapide, à Allen Lazard au niveau du physique et de la taille. Donc c'est redondant. Plus rapide, mais voilà, c'est redondant. Oui. Et en fait, le problème, c'est que tu passes de 53 à 34 en mettant le 59e choix dedans. La veille, si tu mets le 59e choix avec ton choix 22, tu peux monter jusqu'en 14. Si tu rajoutes un joueur, tu peux encore un peu aller plus haut. Par exemple, je ne sais pas, Jordan Love aux Commanders avec le choix 59, puisqu'ils ont drafté un quarterback. Et là, tu pouvais avoir le choix de Chris Olave, de tout ça. Donc, c'est subi, en fait. C'est ça qui me pose problème. Et tu pars sur un receveur numéro 1 qui a un projet. Voilà. Donc, après, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je sais qu'on n'a pas deux heures juste pour parler de Green Bay. Mais le problème, il est là. Après, il y a des bons joueurs, il y a des bons choix et des bonnes opportunités. Et Nak Barré, en fin de cinquième tour, c'est très bien. Devontae Wyatt, super, pour une fois qu'on va avoir une ligne défensive qui est aussi séduisante avec Clark et avec Jaren Reed qui a été signé, super. Bon, j'aime pas du tout les deux offensive linemen qui ont été choisis, surtout quand tu vois
linemen polyvalent en l'occurrence.
Lineman
pour remplacer Billy Turner un peu.
Alors soit pour Sean Ryan, ok, pas de problème. Mais tu prends Zach Tom alors qu'il y a encore Darian Kinnard de disponible, ça par contre ça me dépasse. Et ce qui me gêne, c'est que ça va faire exactement la même chose que l'année dernière où on prend Josh Myers au deuxième tour pour que les Chiefs prennent Creed Humphrey juste après. Ils s'en frottent les mains parce que c'est le meilleur centre de la ligue déjà, ou quasiment. Et ben là, on va se retrouver à avoir pris un mec qui va cirer le banc pendant 2 ou 3 ou 4 ans, pendant que Darian Kinnard, il va devenir titulaire à Kansas City. Donc, ça me pose un petit peu souci à ce niveau-là. Après, effectivement, Samori Touré, comme ça, en dernier choix, super. Ça peut certainement, il fera les 53, j'espère. Beaucoup de qualité. Doubs, c'est meilleur que MVS, enfin, Marquez Valdez-Scandling, qui est parti pendant l'intersaison. Ça sera une update, une upgrade plutôt. Voilà, mais partant du principe que le premier choix est raté, que le choix du receveur est paniqué et que tu oublies de prendre un safety, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais il y avait un besoin important sur le poste de safety.
Ils ont pris Tarik Carpenter.
Tarik Carpenter est un linebacker, monsieur. Donc voilà, ça me pose problème.
En fait, tu n'es pas au courant, mais Kowalka, je veux safety.
D'accord, alors pourquoi pas. Non, mais voilà, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a trois... C'est pas une mauvaise draft. Il y a trois problèmes majeurs. Kway Walker en 22 par rapport à, sa position, l'absence de safety et cette façon dont ils ont paniqué sur le receveur.
Et du coup, on passe sur du passable ou sur du redoublement à tes yeux alors ? Parce qu'on va le dire, hein, au sein de la rédaction, je crois qu'on dit de justesse sur des encouragements.
Mais c'est à cause de moi parce que j'étais parti sur redoublement, j'étais vraiment très remonté à la sortie du week-end. Maintenant, j'essaie de relativiser et je me rends bien compte qu'il y a des joueurs intéressants qui vont contribuer, j'espère, tout de suite. Donc, je reste surpassable. Mais je me rends compte que le Devante Adams est parti pour prendre Kay Walker et pour monter prendre un receveur de deuxième division, en fait. Voilà. Contre Devante Adams, on a un linebacker projet et un receveur de deuxième division projet. C'est ça, c'est dur, en fait.
Bon, on va essayer de faire un peu plus vite sur les autres équipes de l'NFC Nord, enfin, en en parlant correctement, bien entendu. Avec du coup donc les Detroit Lions, qui avaient le deuxième choix de la draft, Aidan Hutchinson, edge rusher de Michigan, qui a été drafté avec ce choix. On est monté également au 12e choix pour les récupérer Jamison Williams, receveur d'Alabama, Josh Pascal, defensive end de Kentucky également, qui a été sélectionné un petit peu plus loin. On a également du Kirby Joseph, safety d'Illinois, ou encore du James Mitchell, tight end de Virginia Tech. Draft globalement cohérente. On n'a pas fait le choix d'un quarterback du côté de Détroit, donc grande confiance à Jared Goff. Et globalement, voilà, on a l'air de bonifier des secteurs où on pouvait être assez en difficulté. On continue en tout cas d'aimer la ligne défensive du côté de Dan Campbell.
Ah ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce que là, je me demande, enfin, ils peuvent jouer à 10 joueurs de ligne défensive dans leur escouade en titulaire, c'est impressionnant. Alors, Hutchinson, c'est une aubaine, tant mieux pour eux, ça va être un super joueur. Lui aussi, comme Thibodeau, sera certainement en lice pour le rookie défensif de l'année. Je suis beaucoup plus mitigé sur le reste de la draft, de leur draft. Jamison Williams faire un trade-up pour un joueur blessé. Alors, c'est sûr, les Lions, ils peuvent se permettre d'attendre. De le remettre sur pied, puisqu'ils vont pas jouer, eux, les playoffs dès cette année. Il y a encore beaucoup trop de trous. Mais donc, avec Hutchinson comme pick numéro un, je trouve que derrière, il y a encore un defensive end. Il y a encore un pass rusher un peu plus tard avec Houston. Ouais. Sachant que t'as encore Harris que t'as prolongé. Il y a les frères Okwara. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de pass rusher ou de joueurs à tendance chasseur de quarterback. Au détriment des DB en l'occurrence, parce qu'il y a les corners. Lucas en fin de draft, pourquoi pas, c'est un joueur que je trouvais pas inintéressant. Safety, Joseph, il va être un peu seul si tant est qu'il puisse exploser rapidement et s'épanouir tout de suite. Donc je trouve que c'est un peu trop focalisé pour le coup sur cette ligne défensive, et c'est ça qui me pose un peu question.
Oui, pas grand chose de plus à rajouter. C'est vrai que Jamison Williams, je l'aurais vu en excellent projet de receveur numéro 2 dans un premier temps. Alors, c'est sûr qu'Amon-Ra St. Brown sort d'une bonne saison rookie du côté de Détroit, donc on peut se dire qu'il peut assurer le statut de receveur numéro 1. Ils ont en effet signé DJ Shark pendant l'intersaison, mais qui lui aussi revient de soucis de blessure. Donc, ça reste pas forcément un environnement totalement épanouissant pour Jared Goff, quand bien même il aurait repris un peu du poil de la bête. Dans le système privilégié par Dan Campbell. Donc oui, je t'avoue que je ne sais pas pour toi, tu partirais quand même sur encouragement parce qu'il y a on va dire qu'il y a un peu de star power dans cette équipe-là. J'essaie de voir un petit peu ce qui avait été plébiscité. Ben, je crois que c'est encouragement, globalement consensuel. Est-ce que c'est ton avis à toi également ?
Ouais, je suis à la limite entre passable et encouragement, justement pour cette redondance de postes toujours un peu les mêmes, mais c'est sûr que Hutchinson... Tu le récupères en deux, c'est vraiment une bonne opportunité. Donc, En plus, il y a la belle histoire, il vient de Détroit, enfin, il vient du Michigan, etc. Donc, pour ça, on peut partir sur encouragement.
Très bien, on enchaîne sur les Minnesota Vikings avec notamment les sélections de Lewis Cine, safety de Georgia en fin de premier tour, Andrew Booth, cornerback de Clemson également au deuxième. Un petit peu plus loin, on avait notamment Ed Ingram, garde d'LSU ou encore Brian Asamoah, linebacker d'Oklahoma. Enfin, voilà, beaucoup de choix. Hein. On a souvent des drafts assez fournis ces dernières années du côté de Minnesota et ça ne fait pas exception à la règle malgré le départ de Rick Spielman, le general manager. Alors concrètement, je vais te donner mon avis et tu me diras un petit peu ce que tu en penses. Les choix en eux-mêmes ne sont pas vraiment contestables. C'est plus la stratégie et la manière dont ça s'est mis en place du côté de Minnesota qui peut laisser un petit peu des regrets, notamment le fait d'avoir renforcé des adversaires directs.
Oui, bah c'est ça, parce qu'ils font donc deux échanges avec d'abord les Lions puis les Packers au deuxième jour. Donc ça, c'est quand même assez spécial. Hein. Ce n'est pas tout le temps qu'on voit des équipes intra-division faire des échanges pendant la draft. Je suis pas emballé. Moi qui avais l'habitude de saluer les drafts de Spielman, donc l'ancien general manager, avec toujours énormément de bonnes choses, qui pour moi ont souvent été, ont été un petit peu négatives par, rendues négatives par l'ancien head coach. Là, je suis pas super emballé. Lewis Cine, je suis pas sûr que ça soit vraiment le besoin numéro un à ce poste-là. Alors après, il le voit peut-être comme le successeur d'Harrison Smith qui a quand même 33 ans, pourquoi pas.
En tout cas, ça va cogner dur dans le backfield.
Voilà, ça va taper, c'est certain.
Smith, ouais, ça va pas faire semblant.
Booth, à cet endroit-là, oui, c'est éventuellement, ils avaient besoin de continuer à se renforcer sur le poste de corner. Pour le reste, je trouve que c'est vraiment assez moyen. Enfin, en tout cas, moi, ça me vend pas du tout de rêve. Ils ont attendu très très tard pour se renforcer au poste de receveur, alors que je pense qu'ils avaient quand même un besoin. Même s'ils ont Justin Jefferson qui est un super receveur, j'ai trouvé Adam Thielen un peu vieillissant l'année dernière, enfin un peu moins bon. Osborne, ça reste un joueur de rotation, donc j'aurais quand même bien aimé les voir se renforcer là-dessus. Voilà, donc c'est pas une grande cuvée pour moi pour Minnesota cette année.
Ouais, ça va. C'est difficile à juger parce qu'encore une fois, et j'en avais parlé dans les mocks pré-draft, mais c'est vrai que l'effectif me paraît quand même malgré tout assez complet. Il y avait besoin d'ajustements, notamment dans le backfield défensif, et ça a été considéré en amont. Après, comme tu le dis, peut-être qu'il y a des postes où on a ajouté un peu de profondeur, mais peut-être pas toujours les postes les plus judicieux. Donc c'est là en effet où ça va être intéressant à voir, mais oui, puis c'est vrai que encore une fois, on dit monter des trades avec des adversaires directs pour en plus leur donner des receveurs potentiellement numéro un à terme. Ça, je pense que ça va faire plaisir aux observateurs à chaque fois que Jameson Williams ou Christian Watson va se régaler contre les Vikings. Donc voilà. Au niveau de la rédaction, d'un point de vue global, on était parti sur redoublement. Alors moi, j'étais plus sur un gros passable. C'est quoi ton avis là-dessus?
Ouais, un gros passable, mais un vil impassable. Ouais.
Un passable, la prochaine fois, tu redoubles. Très bien. On va terminer du coup par les Chicago Bears. On avait commencé par la sélection de Kyler Gordon, pardon, cornerback de Washington, et Jaquan Brisker, safety de Penn State. Un petit peu plus loin, on avait les Jones en force avec Velus, le receveur de Tennessee, et Braxton, le tackle de Southern Utah. Et puis, on a d'ailleurs considéré beaucoup la ligne offensive avec notamment Zach Thomas, le garde de San Diego State, Duke Kramer, le centre d'Illinois, ou encore Jetairi Carter, le garde de... non, c'est pas Georgia Southern, de Southern, tout simplement, il me semble. Comment tu juges cette draft de Chicago? Moi, je t'avoue que il y a des équipes comme ça qui aiment bien considérer un côté du ballon et pas l'autre. Bon, bah, visiblement, l'attaque à Chicago, ça a l'air de faire l'affaire.
Ouais, c'est incompréhensible pour moi. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'adore Jaquan Brisker, et d'ailleurs, ça m'embête un peu qu'il soit à Chicago, mais bon, je comprends pas du tout. On avait parlé pour les Bears de renforcer la ligne offensive et les cibles. Bah, je vois pas. Alors, bien sûr, il y a des receveurs et il y a des tackles, mais tu as investi lourdement sur Justin Fields en 2020, T1. Tu te prives d'un premier tour, du coup, pour ça. Et tu lui donnes pas de, d'armes, tu lui donnes pas de cible. Alors, j'ai beaucoup d'affection pour Equanimeous Saint-Brown qui a rejoint les Bears pendant l'intersaison, mais c'est pas un receveur numéro un. Leur petit receveur,
Mooney.
Nom m'échappe là. Voilà, Mooney, a fait une bonne saison. Mais c'est pareil, enfin, c'est pas un receveur numéro un. Je pense qu'à la place de Gordon, c'est vrai que Eberflus est un coach défensif, donc il s'est fait peut-être plaisir, ou il a peut-être demandé à son GM de lui faire plaisir. Mais je pense qu'à la place de Gordon, un receveur, ça n'aurait pas été du luxe, quoi, pour vraiment offrir une solution. Et moi, je pense que maintenant, en plus avec les Lions, on en a parlé, qui sont renforcés sur le pass rush, mais il va manger le gazon, Justin Fields, parce que sa ligne offensive, elle est vraiment médiocre. Je vois pas où elle est renforcée. Donc, ça va être terrible.
Moi, c'est mon grand point d'interrogation. Alors, on sait qu'il y a Matt Eberflus, donc, qui est arrivé comme head coach, Ryan Poles, donc, qui arrive des Chiefs en general manager. Et moi, j'ai toujours du mal à comprendre ce principe qui veut que quand, en effet, Khalil Mack peut-être prenait de l'âge, etc., etc. Peut-être qu'à un moment donné, il fallait reconsidérer ça, mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux pas te dire, on va miser sur un coach qui va vouloir tout de suite renforcer l'attaque. Et là, on a l'impression que l'angle d'offensive initiale de ce nouveau front office des Bears, c'est de recharger la défense. Alors que voilà, enfin, je veux dire, la défense, oui, peut-être qu'elle a besoin d'être rechargée, mais il y a déjà des playmakers. En attaque, en effet, tu as supposément ton quarterback du futur, mais autour, tu n'as clairement pas que des valeurs sûres, quoi. Donc, plutôt que de recharger en défense, je pense que ça n'aurait pas été une mauvaise idée de vraiment essayer d'ajouter déjà de l'impact en attaque. Et voilà, et on va se retrouver encore avec une défense de Chicago supposément bonne. Mais voilà, Matt Eberflus à Indianapolis, il arrivait aussi à sortir des seconds couteaux, des joueurs sortis un petit peu de nulle part. Je ne sais pas s'il y a forcément besoin d'aller investir deux deuxièmes tours sur des défenseurs, même si, voilà, encore une fois, Brisker, moi aussi, j'adore. Et je pense que Gordon, en cornerback numéro 2, ça peut être une valeur extrêmement intéressante du côté de Chicago. Ce secondary avait besoin, en effet, d'être boosté, mais il y avait peut-être des bonnes opérations peut-être à faire un petit peu plus loin. Donc ouais, moi je t'avoue, je suis sur un bon passable du côté de Chicago. Je sais pas ce que t'en penses, le temps que je vérifie le consensus global.
Ouais, pour moi, c'est redoublement sans hésiter.
Ah bah, redoublement aussi pour tout le monde. Ouais. Diakon Wesker n'a pas suffi.
Il n'y a pas de cohérence, c'est ça en fait le problème.
On va terminer avec la NFC West en commençant par l'Arizona Cardinals, puisqu'il y a eu un mouvement notable, notamment au premier tour avec l'arrivée de Marquise Brown en provenance des Baltimore Ravens, hein, en échange notamment, je crois que c'était le 23e choix.
23, après, par contre,
qui a finalement
été
envoyé à Buffalo. Ouais, c'est ça, ça s'est fait en plusieurs bandes. Mais du coup, Marquise Brown qui arrive en receveur, c'est une bonne chose et manifestement, ça avait été pris en compte puisque... ça prenait en considération la suspension à venir, a priori, de DeAndre Hopkins, même s'il y a un appel qui est en cours par rapport à sa prise de substance interdite. En tout cas, on a considéré les cibles. Outre Marquise Brown, qui arrive donc de Baltimore via un trade, on a Trey McBride, tight end de Colorado State, qui arrive au deuxième tour. On renforce ensuite la défense avec notamment Cameron Thomas, lineman défensif de San Diego State, et Myjai Sanders, edge rusher de Cincinnati, sachant que Jesse Luquita a été signé un petit peu plus loin, en tout cas a été sélectionné un peu plus loin, le edge rusher de Penn State. Quelques gardes également avec Lesitu Smith et Marquise Hayes. Qu'est-ce que tu en penses, ce draft des Cardinals? Moi, je t'avoue qu'à l'échelle de la NFC West, c'est bien. On promet déjà pour la suite. Pour le reste, il y a des choix qui me laissent un petit peu sceptique. En défense, en tout cas, il y a beaucoup de projets de joueurs encore à développer. Alors, tu as peut-être des besoins immédiats.
Bah, c'est ça, voilà. Tu as très bien résumé. Alors moi, j'aime beaucoup Cameron Thomas et Myjai Sanders dans une moindre mesure, mais c'est pas des joueurs qui vont transformer la défense tout de suite. C'était un poste à besoin, mais est-ce que c'était plus important, plus prioritaire que le poste de corner? Je n'en suis pas persuadé. Je vois pas de corner. Enfin, en tout cas, pas.
Ah, je pense qu'ils ont une comment dire? Ils ont un espoir fou en Jeff Gladney, en sa capacité à rester sage en dehors du terrain.
Oui, d'accord, ok, très bien. Bon,
mais après, je te rejoins là-dessus.
Après, McBride en poste de tight end, c'est un bon joueur. Ils avaient fait venir Hurts l'année dernière, donc ça fait un beau duo. Est-ce que c'était du coup une priorité? C'est pas non plus une certitude. Ouais. Et moi, après, ça me gêne un peu, c'est quand même Marquise Brown. T'échanges un pick 23 contre Marquise Brown. Alors, il récupère un autre petit truc avec, il me semble, mais... c'est un joueur qui n'a pas atteint son potentiel aux Ravens. Alors, on peut débattre du fait Lamar Jackson, etc., etc. Mais là, en fait, ça me fait un peu penser, parce que donc Marquise Brown était coéquipier de Kyler Murray à Oklahoma. Donc, on fait venir ton copain pour essayer de te calmer parce qu'il y a quand même ce feuilleton Kyler Murray qui dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Oui, et puis sans faire trop long, on sait que Marquise Brown, en interne, c'est un joueur extrêmement calme et assez détendu, ouais, de base. il a quand même réussi à s'embrouiller avec l'organigramme de Baltimore. Donc, on imagine voilà. qu'à Arizona, ça devrait bien se passer.
Donc, c'est ça qui me gêne, en fait. C'est vraiment, regarde, Kyler, tu vas pouvoir rester, prolonge, parce qu'on a, on fait venir ton copain. Ouais, c'est ça qui m'embête, et surtout pour une valeur que je trouve un petit peu... Voilà. Donc, après, comme tu l'as dit, c'est pas... Il n'y a pas de playmaker instantané, ça reste des projets. Thomas, il faut aussi trouver son poste idéal. Voilà, c'est bien, mais pas top.
Du coup, ça nous emmène sur quoi alors ? Impassable ?
Oui, passable pour cette histoire d'échange. Sinon, sur le reste, je serais parti sur encouragement, mais avec Marquis Brand, ça fait passable.
Ouais, je suis un peu à la frontière entre les deux. Ce sera un encouragement d'un point de vue consensuel. Mais oui, encore une fois, il y a des choses où je me dis, voilà, ils ont perdu quand même des starters notables pendant cette intersaison. Cameron Thomas, assez haut, c'est bien, mais on en parlait. Pourquoi pas, hein, s'il est formé par J.J. Watt, parce que je pense qu'il sera plus dans un rôle de defensive end, ouais. pourquoi pas. Mais ouais, pour être vraiment impactant dès 2022 dans une NFC West où ça va quand même devoir jouer des coudes dans les premiers rôles, et on sait que généralement, au mois de décembre, du côté d'Arizona et de Cliff Kingsbury, ça tangue un petit peu. Voilà, je suis un peu sceptique par rapport à ça, surtout avec le problème de corner que tu soulevais il y a quelques secondes. On passe aux champions nationaux en titre, les Los Angeles Rams, qui ont donc sélectionné, qui ont attendu le troisième tour pour sélectionner Logan Bruss, garde de Wisconsin, après beaucoup de joueurs du backfield. On avait dit Kobe Durant de South Carolina State, Quentin Lake de UCLA, Darion Kendrick de Georgia, ou encore Ross East de Kansas State. Karen Williams, notamment le running back de Notre-Dame, qui arrive pour renforcer ce fameux backfield de comité auquel tient énormément Sean McVay. Alors forcément, on n'a pas sélectionné très haut du côté des Rams, donc pas beaucoup de choix glamour. Visiblement, le principal objectif, c'était ligne offensive et backfield.
Ouais, bah c'est clair que, enfin, c'était les deux priorités. Là, on peut dire qu'en termes de stratégie, c'est mené à bien. Après, on peut discuter. Moi, je suis un peu surpris par le choix de Kyren Williams, parce que pour moi, ils sont quand même déjà pas mal fournis au poste de coureur, même très très bien fournis. Donc, je suis pas sûr que c'était vraiment très pertinent. Ils auraient certainement pu trouver un peu de profondeur, même dans les joueurs non draftés. Ce qui est certain, c'est qu'avec avec les Rams, on sait très bien que les premiers choix sont faits pour faire venir des joueurs dans des échanges. Et souvent, et notamment sur les DB, ils arrivent à trouver de la valeur en fin de draft. Mmh. On le voit avec donc Jordan Fuller, leur safety titulaire, qu'ils avaient pris au mieux cinquième, et il me semble que c'était un sixième tour.
Oui, je crois que c'était dans ces eaux-là. Juste, si tu me permets, j'ai oublié de le mentionner parce que je parlais des receveurs tout à l'heure. Il y a quand même un move qui a été fait pendant la draft de la part des Rams. C'est le retour de Troy Hill en provenance de Cleveland, donc qui peut éventuellement leur fournir un corner slash nickel dans le backfield défensif. Voilà, c'est ça, défensif.
Donc, partant de ce principe-là, on peut très bien imaginer qu'un Durant, un Lake ou un Kendrick pourraient très rapidement avoir leur carte à jouer dans la rotation, voire plus. Donc, c'est dans la droite ligne de ce que Snead a l'habitude de faire. C'est logique, la ligne offensive. Bon, il va falloir remplacer Whitworth. Ça va être certainement un chantier. Là, il n'y a pas vraiment d'évidence. Mais c'était difficile en commençant si tard de trouver un joueur qu'on peut considérer d'impactant tout de suite.
Ouais, la vie globale, c'est passable. C'est un peu le mien aussi. C'est difficile de leur taper dessus de par le peu de choix qu'ils avaient à leur disposition, en tout cas les peu de choix hauts en amont. Et voilà, après, c'est vrai qu'il n'y a pas un truc où on se dit. Voilà. Même Logan Brush, je ne sais pas s'il pourra forcément être titulaire d'emblée. Mais en tout cas, bon, il y a des besoins qui ont été considérés, mais on va beaucoup s'appuyer sur le secteur de la saison dernière quand même. Donc, passable pour toi aussi ?
Oui, passable.
On s'arrête là. On passe au Seattle Seahawks avec notamment la sélection de Charles Cross, tackle de Mississippi State au premier tour. Ensuite, on a Boye Mafe, defensive end de Minnesota, Kenneth Walker, running back de Michigan State. Ça, c'est un choix qui n'a pas laissé indifférent. Abraham Lucas, un petit peu plus tard, tackle de Washington State. Et puis, on a beaucoup misé sur des receveurs également. Kobe Bryant, cornerback de Cincinnati, et Tariq Woolen, cornerback de UTSA. Deux receveurs également en fin de draft avec Bo Melton de Rutgers et Derek Young de Lenoir Rhyne. Alors, du côté de Seattle, qu'est-ce que tu retiens le plus ? Cette sélection un petit peu surprise de Kenneth Walker au deuxième tour, ce quarterback qui n'a jamais été sélectionné, ou tout simplement l'arrivée enfin d'un tackle, ce qui a dû faire beaucoup plaisir à Russell Wilson ?
Bah, oui, voilà, c'est ça que je retiens. J'avais vraiment l'impression qu'ils ont tirer la langue à Russell Wilson ou même montrer leurs doigts en lui disant « t'es parti, on fait venir deux tackles ». Parce que clairement, avec Cross et même Abraham Lucas, ils ont leurs deux titulaires du futur sur les deux côtés de la ligne. Donc, je trouve que c'est… alors, on s'en fout des considérations sympathiques, etc. Mais je trouve que c'est complètement aberrant d'avoir attendu que ton franchise quarterback s'en aille pour enfin regarder cette position-là. Donc, les joueurs, c'est pas le problème.
Mais le plus triste, si tu me permets, c'est que c'est avec les choix de Russell Wilson parce que tu l'as fait, ces sélections. C'est ça qui est le plus paradoxal. C'est le 9e choix, tu ne l'aurais pas eu sinon.
Donc, en fait, c'est ça qui me gêne parce que ça a vraiment l'impression que c'est faire dépit du bon sens. Voilà. Donc, partant de ce principe-là, ça me pose souci dans leur réflexion. Après, l'éternel running back à Seattle, de toute façon, je pense que eux, comme les Lions peuvent avoir 25 edge rushers, eux, ils ont 25 running back. J'ai l'impression que Schneider, s'il ne draft pas un running back dans le top 50, il est pas bien, il sent mal. Donc, c'était certainement un des tout meilleurs running back de la QV. Donc, c'est pas un problème de joueur, c'est un problème de stratégie. T'es déjà fourni, t'as d'autres besoins, bien d'autres besoins à considérer avant. Donc, c'est ça qui me pose un peu problème. L'absence de quarterback, je ne vais pas cracher sur mon homonyme Drew Lock, donc je pense qu'ils attendent peut-être la saison prochaine. Ils sont peut-être emballés sur un projet 2023.
Ouais. De toute façon, c'est très simple, hein, parce que là, on va revenir à la même chose, mais où ils attendent l'année prochaine, en effet, en attendant de voir ce qu'ils peuvent récupérer. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'ils ont malgré tout, je trouve, un effectif qui n'est pas non plus… c'est pas aussi dépeuplé qu'à Atlanta, par exemple. Donc, je pense qu'ils ont quand même moyen, notamment sur un match où le joueur seul tourne bien, de pouvoir quand même en récupérer quelques-unes. Donc, miser sur un quarterback 2023, ça peut être quand même une stratégie un peu alambiquée. Après, il y a toujours les mêmes problématiques. Hein. Les deux quarterbacks vétérans qui reviennent le plus souvent, c'est Mayfield et Garoppolo. Garoppolo qui vient d'un adversaire de division. Et Baker Mayfield, dont on voit que la cote est au point mort. Donc, voilà. Il va falloir voir. Peut-être qu'en début de saison régulière, ça va se décanter. Mais en tout cas, du côté de Seattle, pour l'instant, on a l'air de laisser les clés du camion à Drew Lock, voire à Geno Smith, hein, je crois, qui a été re-signé pendant l'intersaison. Il y a Caleb Ellaby, je crois, aussi, le quarterback de Western Michigan, qui a été signé en agent libre, en joueur non drafté. Donc, ce sera à voir. Mais oui, en tout cas, stratégie pour le moins étonnante du côté de Seattle. Ça t'amène à quoi? Un passable, du coup, un encouragement?
Ouais. Il y a des choix intéressants, mais je reste sur passable parce qu'il y a trop d'incohérences, il y a trop de contretemps dans cette draft. Passable.
Le point de vue global, c'est encouragement. Je vais rester sur un passable également, avec beaucoup de points d'interrogation quand même, je trouve, sur ce qui a été mis en place par Seattle. On termine avec les Niners dans cette NFC West, avec notamment la sélection de Drake Jackson, pass rusher de USC au deuxième tour. Un petit peu plus loin, on avait Tyrion Davis-Price, running back de LSU, Danny Gray, receveur de SMU. Vous ne l'avez pas vu, je vois Alex qui dodeline la tête, genre, c'est pas possible. Spencer Burford également, tackle de UTSS, il m'aimera, ne me fait pas défaut. Et puis voilà, un petit peu plus tard également, quelques corners qui ont été signés, comme Samuel Womack de Toledo ou Katari Castrofields de Penn State. On a terminé avec un quarterback, le dernier joueur sélectionné, d'ailleurs, Mr. Irrelevant 2022, Brock Purdy, quarterback d'Iowa State. Alors du coup, qu'est-ce que tu en penses? Apparemment, tu aimais beaucoup cette sélection de Tyrion Davis-Price du côté de San Francisco.
Ben ouais, je pense que ça donne le ton d'une draft qui a été aussi assez bizarre. Alors, je remets pas du tout en question l'utilisation que peut en faire Shanahan de tous ses coureurs, mais tu as eu la bonne surprise Elijah Mitchell la saison dernière. Tu as toujours Trey Sermon déjà drafté relativement haut la saison passée, même s'il a été pas mal gêné par les blessures. Plus certainement deux trois noms qu'il a tout de suite ne reviennent pas. Enfin, je trouve que c'est quand t'as d'autres besoins, tu vois pas tellement l'intérêt. Alors, ils gagnent sur la course, ils vont beaucoup courir avec Trey Lance très probablement. Donc, ils ont besoin de multiplier les têtes dans le backfield pour créer l'incertitude face à la défense adverse. Ok, pas de souci. Mais t'avais des besoins en defensive back, notamment en safety. Il n'y a pas de safety. Et ça m'inquiète parce que t'es quand même face à l'armada offensive des Rams. Et je pense qu'ils peuvent prendre relativement cher assez vite. Il me semble de mémoire que c'est toi qui avais parlé de Castrofields dans un des podcasts.
Sûrement.
Donc je te suis, je veux bien croire qu'il va certainement être un bon joueur, mais Il en manque à ces postes-là. Et je te le dis, notamment au poste de safety. Et ça me pose vraiment souci pour cette équipe. Commencer avec un edge rusher quand t'as déjà Armstead et Bossa, je suis pas sûr non plus que c'était la priorité. Donc voilà, c'est alambiqué.
On renforce comme d'habitude la O-line et la D-line du côté de John Lynch et de Kyle Shanahan, mais c'est vrai que cette sélection d'un running back assez haut pour un head coach qui est quand même fort pour pouvoir en tout cas en développer assez bas, et tu l'as dit, c'est le dernier exemple en date, c'est quand même Elijah Mitchell. C'est ce qui amène à être un petit peu étonné par certains choix. Du coup, on est sur quoi? Sur du passable, du redoublement du côté de San Francisco?
Non, là, c'est un bon redoublement.
Ah, là,
c'est pas la plus mauvaise draft de l'année, mais c'est pas
c'était unanime, pardon. On a eu les Dolphins dans l'AFC, les Niners dans l'AFC. Globalement, on n'a pas tout compris. Dans la rédaction, on n'a pas tout compris, et ce sera un redoublement globalement pour tout le monde. C'est sur cette bonne note qu'on va se laisser, qu'on va terminer cette 498e émission. Je vous rappelle que vous pouvez que toute l'actualité de la NFL sur touchdownactu.com, que vous pouvez également vous rendre sur Tipeee, notamment avec des packs promo qui sont en cours. Si vous voulez nous soutenir, vous faire des petits cadeaux au passage. Pour nous suivre sur Twitter également, Alexandre Locke, tout attaché?
Non, Alexandre non. _ TDA.
Je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Alexandre _ TDA, c'est ce que j'ai dit. Yellow Radio Star pour me suivre. Merci encore Alain Mattei, en tout cas, d'avoir été avec nous à la technique pour cette émission. Et puis, on se retrouve prochainement. On va laisser les choses se calmer un petit peu. Préparer peut-être la 500e qui arrive à grands pas. Et puis, d'ici là, en tout cas, profitez bien de cette période d'accalmie, on va dire, en attendant le retour de la NFL avec les previews qui ne devraient plus tarder, hein, puisque ça va arriver assez vite malgré tout. Donc, voilà. D'ici là, restez bien connectés sur les antennes de TDA, sur le site également, et puis on se dit à très vite. Ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tagliate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rodgers, Global, Beckham, Tom Brady, quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points, et on finit en requin.
Do you ever feel like your brain is on overdrive, and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.